En route sur les chemins de la philosophie, haut les cœurs, on se déchaîne et on va droit au but, si le cœur vous en dit.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
Bonjour Sylvain Léda.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de littérature française à l'université de Rouen, spécialiste du romantisme, c'est-à-dire spécialiste du cœur, non ?
Oui, on peut dire ça, hein, si on considère que le romantisme a été le mouvement littéraire et artistique qui a mis en scène le cœur, qui en a fait le centre de son propos dans la poésie lyrique. Mais le romantisme n'est pas que cela, évidemment.
Et en particulier spécialiste d'Alfred Musset, dont il est question aujourd'hui. Vous lui avez consacré un livre, Les fantaisies d'un enfant du siècle, dans la collection Découverte. Chez Gallimard, un petit livre illustré, on trouve beaucoup d'informations très utiles. Et on y découvre notamment que un des surnoms d'Alfred de Musset, c'est tout simplement le prince du cœur ou le poète du cœur.
Oui. Caroline Jobert, l'une de ses maîtresses, une de ses amies, l'avait surnommé le prince phosphore de cœur volant. Hein, donc cette image montrait à la fois l'effervescence de l'esprit de Musset, son côté peut-être instable, volatile, volant, et en même temps le cœur qui est au centre de l'image, au centre du surnom, qui dit l'importance du cœur dans l'esprit de Musset, dans son œuvre et dans son comportement, je crois, personnel et intime.
C'est très difficile de parler de Musset en particulier, encore plus quand c'est à travers le prisme du cœur, donc peut-être du coup de manière plus générale, parce qu'on est toujours en plein cliché. C'est un peu comme avec Joe Cocker, on fait une semaine sur le cœur, on commence avec la musique qu'on attend le plus, et pourtant, bah, soit ça fait un bon début, soit au contraire, on le refuse. Mais Musset, c'est un peu pareil, on se rend compte que, oui, c'est un poète, disons, romantique, qu'on associe à l'adolescence, un peu folle, hein, qui va pas plus loin que ça. Et pourtant, quand on réfléchit, notamment à travers la question du cœur, on se rend compte que c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît.
Oui, il y a le cœur comme cliché de la poésie romantique, puisque le cœur, c'est ce qui a fait le succès, c'est le fond de commerce de Musset, si j'ose dire. Donc c'est ce qui a fait son succès au XIXe siècle et encore aujourd'hui. Et en même temps, effectivement, c'est un cœur complexe, hein, un cœur saignant, un cœur aride, un cœur navré de joie. C'est ainsi que Lorenzaccio se définit, un cœur navré de joie. Respire, respire, cœur navré de joie, dit-il après avoir assassiné le duc Alexandre. Hein. Donc le cœur est vraiment protéiforme chez Musset. Ce n'est pas seulement un thème sentimental, c'est aussi un mode d'accès au monde, un mode d'accès à soi, à l'autre. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle les cœurs de Musset, j'ai envie de dire, définissent à la fois sa poétique, son esthétique et une manière de dialoguer avec lui-même.
Donc le cœur n'est pas que l'amour chez Musset.
Le cœur, c'est d'abord l'amour, c'est le siège du sentiment, des sentiments, le siège des passions. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un symbole plus général du rapport à l'autre, du rapport à la souffrance. Hein. On souffre par l'amour, on souffre par les sentiments, mais on souffre tout simplement par la vie, par le fait d'être au monde, d'exister. Et donc le cœur rassemble toutes ces données un peu parfois contradictoires même, hein, puisque le cœur peut aussi être un lieu d'épanouissement, un lieu de plénitude.
On va découvrir avec vous, hein, c'est le Musset peut-être qu'on connaît moins, on connaît, vous avez cité Lorenzaccio, on connaît peut-être On ne badine pas avec l'amour, parfois on l'étudie en classe. Il y a des textes de Musset qui sont beaucoup moins connus et où on y entend le cœur parler, alors au sens fort du terme, puisque dans ce poème, intitulé Namouna, conte oriental, là c'est le deuxième chant, on y entend la référence que Musset fait au cœur comme étant celui qui lui dicte ce qu'il écrit. Écoutez.
J'aime surtout les vers, cette langue immortelle. C'est peut-être un blasphème, et je le dis tout bas, mais je l'aime à la rage. Elle a cela pour elle que les sots d'aucun temps n'en ont pu faire cas. Qu'elle nous vient de Dieu, qu'elle est limpide et belle, que le monde l'entend et ne la parle pas. Eh bien, sachez-le donc, vous qui voulez sans cesse mettre votre scalpel dans un couteau de bois, vous qui cherchez l'auteur à de certains endroits, comme un amant heureux cherche dans son ivresse, sur un billet d'amour, les pleurs de sa maîtresse, et rêve en le lisant, au doux son de sa voix, sachez-le, c'est le cœur qui parle et qui soupire lorsque la main écrit, c'est le cœur qui se fond, c'est le cœur qui s'étend, se découvre et respire comme un gai pèlerin sur le sommet d'un mont. Et puissiez-vous trouver, quand vous en voudrez rire à dépecer nos vers, le plaisir qu'ils nous font, allez, exercez-vous, débrouillez la quenouille, essoufflez-vous à faire un bœuf d'une grenouille. Avant de lire un livre et de dire « j'y crois », analysez la plaie et fourrez-y les doigts. Il faudra de tout temps que l'incrédule y fouille pour savoir si son Christ est monté sur la croix. Et depuis quand un livre est-il donc autre chose que le rêve d'un jour qu'on raconte un instant ? Un oiseau qui gazouille et s'envole, une rose qu'on respire et qu'on jette et qui meurt en tombant ? Un ami qu'on aborde, avec lequel on cause, moitié lui répondant et moitié l'écoutant.
La vie de la pommée
de Christelle Alves-Mera et Anne-Claire Jolin. Épisode 1.
Le burn-out de la pommée.
Vous écoutez France Culture. Vous venez d'entendre un texte d'Alfred de Musset interprété par Anne Brissier, suivi du chant Ich liebe dich de Liszt interprété au piano. Nous sommes avec Sylvain Léda et nous parlons du cœur cette semaine, du cœur notamment aujourd'hui chez Alfred de Musset. Ce qu'on entend dans le texte qu'on vient d'écouter, Sylvain Léda, c'est à la fois une leçon d'écriture et de lecture.
C'est une leçon d'écriture et de lecture, et c'est formidable d'écouter Namouna, qui est un poème extraordinaire de Musset, puisque Namouna n'était pas du tout prévu au programme, si j'ose dire. En 1832, Musset vient de perdre son père, en avril, et il hésite encore à devenir homme de lettres. Hein. Le théâtre n'a pas fonctionné en 1830, et il dit à son frère, écoute, je fais un dernier essai en poésie, et après, je m'engage dans les hussards. Voilà, l'uniforme m'ira bien. Voilà l'argument qu'il donne. Donc, il écrit deux pièces. Un spectacle dans un fauteuil, À quoi rêvent les jeunes filles, qui est une pièce sur la découverte de l'amour, la découverte du cœur. Et une seconde pièce, La coupe et les lèvres, qui est une pièce sur la tragédie du cœur d'un homme brisé, envahi par le mal, par la douleur. Et quand il soumet à son éditeur ces deux pièces, l'éditeur lui dit « c'est trop court ». Il faut atteindre 300 pages. Donc en quelques jours, quelques semaines, Musset écrit tous les chants de Namouna, qui est un de ses poèmes les plus géniaux.
Qu'est-ce que c'est Namouna ?
Namouna, c'est le nom du personnage, c'est un conte oriental. Donc il part de cette idée du conte oriental, un petit peu mis à la mode par Hugo dans Les Orientales en 1829. Mais il digresse à partir de ce thème oriental. Il invente des vers serpentins, des vers fantaisistes. Et au milieu et à la fin de ce poème, d'un seul coup, il exprime sa poétique, c'est-à-dire sa vision de la littérature, sa manière d'écrire, à travers cette idée du cœur qui saigne. On pourrait presque dire que la plume de Musset se trempe dans ce sang pour écrire. Là, c'est très clair dans Namouna, et en même temps, il explique qu'il n'est pas de bon texte, fût-il fantaisiste, fût-il humoristique, comme l'est Namouna, qui ne soit trempé dans ce sang, le sang qui vient du cœur, la plaie qu'on ouvre, qu'on regarde, qu'on observe, et qu'on restitue dans une poésie tout à fait inventive, tout à fait originale. Namouna est un des poèmes les plus extraordinaires de Musset.
Sachez-le, c'est le cœur qui parle et qui soupire lorsque la main écrit. C'est le cœur qui se fond, c'est le cœur qui s'étend, se découvre et respire comme un gai pèlerin sur le sommet d'un mont. Le cœur chez Musset est toujours mobile, plastique. Il est souvent ouvert, il saigne ou bien il respire, mais ce n'est jamais un simple organe auquel on se réfère comme étant à la fois le lieu vital de la vie humaine et l'essence même de l'amour. Il y a toujours quelque chose de très changeant, de très mobile.
Oui, il est mobile parce qu'il est personnifié. Et à partir du moment où il est personnifié, il devient une sorte d'entité, il a une humanité. Musset lui prête des talents, des caractéristiques humaines, ce qui fait que le cœur, effectivement, est mobile, ductile. Il dialogue avec son cœur, c'est un interlocuteur, c'est l'interlocuteur privilégié du poète, avec la muse, bien sûr, mais le cœur, c'est effectivement une personne, une entité vivante que Musset convoque à la fois comme source d'inspiration, bien sûr, mais aussi comme interlocuteur privilégié, comme si ça, le cœur était aussi ce qu'il y avait de plus intime de la création, l'origine même de la création peut-être, enfin c'est ce qu'il explique dans Namouna.
Vous disiez, oui, au moment où il écrit ce texte, ce théâtre ne marche pas très bien. Il faut quand même aller un tout petit peu plus loin pour lui rendre justice. C'est que ce qu'il va écrire ensuite va tellement bien marcher qu'à une époque, quand on parle du poète, au 19e siècle, on pense à Musset.
Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement Musset poète, Musset homme de théâtre, même si pour Musset, c'est la même chose. Être poète dramatique, c'est écrire des pièces, et des pièces en vers aussi, bien sûr. Au 19e siècle, Musset doit son succès à la fois à sa poésie, mais aussi à son théâtre. Quand on dit le poète, avec un P majuscule, dans la seconde moitié du 19e siècle, eh bien c'est Musset. On pense à Musset, tout de suite, Musset. Pas Hugo, pas Lamartine, mais Musset. D'ailleurs, les poètes de la seconde moitié du 19e siècle le lui font payer cher, parce que du coup Musset incarne cette poésie romantique, incarne ce lyrisme du cœur.
Baudelaire, Rimbaud, quand on lit ce qu'ils écrivent sur Musset, ils le haïssent.
C'est très violent. Alors cette haine est suspecte, elle est tellement violente qu'elle est suspecte. Effectivement, c'est le modèle à abattre. Le modèle du poète du cœur que Musset a lui-même construit d'ailleurs, en convoquant constamment le cœur et puis surtout en donnant de l'ampleur à son expérience personnelle dans sa poésie lyrique, dans Les Nuits par exemple. Et c'est ce contre quoi les poètes entre guillemets de la modernité, comme Baudelaire, comme Rimbaud, mais on peut aussi penser à Flaubert, au romancier Flaubert, ce contre quoi il s'élève, et c'est ce qu'il critique chez Musset. Cet épanchement du cœur, le cœur qui s'épanche, ça exaspère Baudelaire, ça exaspère Rimbaud, mais...
Vous dites que c'est suspect, ça veut dire que ça cache une dette ?
Ça cache sans doute une dette, parce que si on lit évidemment en détail l'œuvre de Musset, on voit bien toute la proximité qu'il peut y avoir entre Musset et Baudelaire, Musset et Rimbaud. Musset, c'est le génie adolescent. Les vers de Namouna sont écrits à 21 ans, son premier recueil est écrit à 18 ans. Le génie adolescent qu'on prête à Rimbaud, Musset l'incarne aussi à son époque en 1829-1830. Donc je pense qu'il faut tuer les modèles romantiques, les grands modèles romantiques de la poésie lyrique. Mais il ne faut pas oublier que Musset, c'est un poète du cœur, mais un poète du cœur qui peut avoir beaucoup d'humour, beaucoup d'insolence.
Tu te frappais le front en lisant Lamartine, Édouard. Tu pâlissais comme un joueur maudit. Le frisson te prenait et la foudre divine, tombant dans ta poitrine, t'épouvantait toi-même en traversant ta nuit. Ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. C'est là qu'est la pitié, la souffrance et l'amour. C'est là qu'est le rocher du désert de la vie, d'où les flots d'harmonie, quand Moïse viendra, jailliront quelque jour. Peut-être à ton insu déjà bouillonne-t-elle ces laves du volcan dans les pleurs de tes yeux. Tu partiras bientôt avec les hirondelles, toi qui te sens des ailes lorsque tu vois passer un oiseau dans les cieux. Ah, tu sauras alors ce que vaut la paresse. Sur les rameaux voisins, tu voudras revenir. Édouard, Édouard, Ton front est encore sans tristesse, ton cœur plein de jeunesse. Ah, ne les frappe pas, il n'aurait qu'à s'ouvrir. Encore un texte peu connu, Sylvain Léda, et encore une référence à une sorte de méthode d'écriture. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, c'est là qu'est la pitié, la souffrance et l'amour. Tout se concentre en un point, et c'est en le frappant que l'on fait jaillir l'expression poétique. On retrouve ce cœur que l'on doit malmener pour que puisse en sortir la création.
La violence, le geste violent, est chez Musset inhérent, associé à l'acte poétique. Hein, la violence, la souffrance, la blessure fait naître le génie. Hein. Mais ce qui est très intéressant dans ce poème de 1832, c'est que la première convocation du premier vers, c'est Lamartine, qui est le grand poète du cœur, avant Musset, le grand poète lyrique, puisque les Méditations paraissent en 1820. Donc, 10 ans avant l'entrée en lice de Musset, son modèle de poète du cœur, c'est Lamartine, qu'il expose en premier vers. Puis, il décline son cœur à lui, son mode de représentation du cœur, un cœur qu'on frappe, un cœur qu'on malmène, comme vous dites, un cœur aussi qui est associé à une mystique, puisque le poème, ensuite, décline une série d'images bibliques, la référence à Moïse. Hein. Donc, on a chez Musset, effectivement, un rapport entre le cœur, l'inspiration et le génie, mais ça c'est une problématique qui concerne le romantisme en général. Hein. Balzac, au début des années 1830, dans le chef-d'œuvre inconnu par exemple, questionne cette question du génie à travers le cœur, le cœur de l'artiste. Et Musset, lui, intègre son espèce de doute métaphysique, son doute religieux, à cette question du cœur. Donc ça crée une espèce de rencontre un peu étrange, un peu paradoxale, entre la sincérité absolue que nécessite le cœur du poète et toutes ces références intertextuelles, bibliques, qui viennent à la fois parasiter et nourrir son rapport au cœur comme objet d'inspiration, élément qui innerve, alluvionne et précède l'écriture en fait.
Et puis il y a aussi dans ce poème l'opposition entre le début, tu te frappais le front en lisant Lamartine, et la deuxième strophe, ah frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, on déplace le lieu même de la création, c'est pas le front, c'est pas l'intellect, c'est le cœur.
Tout à fait, on est passé de l'esprit, de la tête au cœur, et ça fait bien sûr penser à Stendhal, aux amours de tête chez Stendhal, hein, l'opposition entre Madame de Rênal et Mathilde de la Mole. Bien, chez Musset, effectivement, ce n'est plus l'esprit qu'on convoque, ni la tête qu'on frappe, mais le cœur. Donc on descend d'un degré pour sans doute avoir une approche aussi plus sensuelle du monde, puisque pour Musset, le cœur, c'est aussi le rapport au corps. Cœur, corps peuvent avoir un lien dans l'esprit de Musset. Hein, le cœur n'est pas qu'une abstraction. Donc pour Musset, le cœur, c'est ce qui est chaud, c'est ce qui est vivant. L'esprit, c'est ce qui est froid. Dans On ne badine pas avec l'amour, par exemple, Camille, c'est la tête, c'est l'esprit.
Alors racontez-nous l'histoire d'On ne badine pas avec l'amour, parce que tout le monde ne l'a pas forcément lu.
Alors On ne badine pas avec l'amour est une comédie, proverbe, entre guillemets comédie, écrite en 1834 quand Musset revient de Venise. Il a fait un voyage avec Georges Sand, où il est parti à la fin du mois de décembre 1833. Georges Sand a supplié la mère d'Alfred de Musset de lui laisser son petit-fils chéri, l'emmener avec elle à Venise.
Parce qu'ils sont amoureux, ils ont une relation très compliquée.
Ils se sont rencontrés en juin 1833, 6 mois avant, et c'est une passion, une passion très forte tout de suite, et il décide de faire un voyage, parce que le voyage accomplit l'amour. Lui donne un sens plus profond, plus grand. Et donc ils partent ensemble à Venise et ça se passe très mal. Musset tombe malade, Georges Sand le soigne très bien, et puis Georges Sand est malade aussi, mais Musset ne s'en occupe pas, la livre aux mains du beau docteur Pagello, et il découvre qu'elle l'a trahi. Pendant sa maladie, il découvre qu'elle l'a trahi avec ce beau docteur. Donc Musset rentre à Paris en mars, et commence alors l'une des plus belles correspondances littéraires du 19e siècle, une correspondance très lyrique, une correspondance du cœur, vraiment, entre Musset et Sand. Et Musset écrit au printemps 1834 « On ne badine pas avec l'amour ». Alors ce n'est pas, à proprement parler, une pièce autobiographique, mais on pourrait dire que c'est une autofiction théâtrale. L'histoire de Don't Buy In Pas avec l'amour est simple. Camille et Perdican sont cousins. Ils reviennent tous les deux au château. Ils doivent se marier. Ils se sont connus quand ils étaient enfants. Et Perdican est dans une espèce d'élan lyrique, mais en même temps de nostalgie. Il est très heureux de revoir Camille, mais Camille a été éduquée au couvent. Et donc les principes du couvent, enfin ce qu'elle pense être les principes du couvent, ont, aux yeux de Perdican, refroidi ses élans, gangréné son cœur, enfermé son cœur dans un étau, et ils ne parviennent pas à communiquer. Et afin de susciter la jalousie de Camille, Perdican va feindre d'aimer, ou aimer un peu une jeune paysanne, une gardeuse de dindons qui s'appelle Rosette. Et Camille, qui a très bien compris, est quand même piquée par la rivale, et elle met en place un stratagème pour lui faire comprendre, à cette jeune fille qu'elle ne sera jamais l'épouse de Perdican, puisqu'elle la cache dans un endroit sur scène, et elle discute avec Perdican, et elle démontre par le dialogue et par l'échange de sentiments que Perdican aime Camille et non Rosette. Et quand Rosette comprend qu'elle a été la victime d'un stratagème sentimental, d'un piège assez horrible, elle meurt. Elle pousse un cri et elle meurt. Au moment où Camille et Perdican se déclarent leur amour, insensés que nous sommes, nous nous aimons, on entend un cri dans l'oratoire et c'est Rosette qui est morte. Alors de quoi est-elle morte? S'est-elle suicidée? Est-elle morte de chagrin? Est-elle morte d'un arrêt du cœur, peut-être, hein, mais ça reste mystérieux. Et la pièce se termine sur elle est morte, adieu Perdican, la culpabilité partagée, c'est tout.
Alors on va écouter la fin de cette pièce justement, c'est un moment extraordinaire, le dénouement de la pièce après des pages et des pages. La pièce n'est pas très longue et elle se lit vraiment avec un plaisir sans égal. Mais il y a une tension qui monte, on ne sait pas s'ils vont enfin s'avouer qu'ils s'aiment, s'aiment-ils vraiment, le doute est là jusqu'au bout. Enfin l'aveu est fait et en effet il est suivi immédiatement de la mort de Rosette qui fait tout basculer en un quart de seconde, écoutez.
Insensés que nous sommes, nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille? Quelle vaine parole, quelle misérable folie ont passé comme avant funeste entre nous deux. Lequel de nous a voulu tromper l'autre? Hélas, cette vie est elle-même un si pénible rêve, pourquoi encore y mêler les nôtres? Oh mon Dieu, le bonheur est une perle si rare dans cet océan d'ici-bas. Tu nous l'avais donné, pêcheur céleste. Tu l'avais tiré pour nous des profondeurs de l'abîme, cet inestimable joyau. Et nous, comme des enfants gâtés que nous sommes, nous en avons fait un jouet. Le vert sentier qui nous amenait l'un vers l'autre avait une pente si douce. Il était entouré de buissons si fleuris. Il se perdait dans un si tranquille horizon. Il a bien fallu que la vanité, le bavardage et la colère vinssent jeter leurs rochers informes sur cette route céleste qui nous aurait conduit à toi dans un baiser. Il a bien fallu que nous nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. Oh, insensés, nous nous aimons.
Oui, nous nous aimons, Perdican. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait.
Chère créature, tu es à moi.
C'est la voix de ma sœur de lait.
Comment est-elle ici? Je l'avais laissée dans l'escalier. Lorsque tu m'as fait rappeler, il faut donc qu'elle m'ait suivi sans que je m'en sois aperçu.
Entrons dans cette galerie, c'est là qu'on a crié.
Je ne sais ce que j'éprouve. Il me semble que mes mains sont couvertes de sang.
La pauvre enfant nous a sans doute épiés. Elle s'est encore évanouie. Viens, portons-lui secours. Hélas, tout cela est cruel.
Non. En vérité, je n'entrerai pas. Je sens un froid mortel qui me paralyse. Vas-y, Camille, et tâche de la ramener. Je vous en supplie, mon Dieu, ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes deux enfants insensés, et nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosette, Dieu juste. Je lui trouverai un mari, je réparerai ma faute. Elle est jeune, elle sera riche, elle sera heureuse. Ne faites pas cela, oh Dieu. Vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il?
Elle est morte. Adieu, Perdican.
Et en 5 mots, la pièce se termine, un nouveau retournement a lieu, puisqu'une fois que Rosette est morte, eh bien, Camille, qui vient d'avouer son amour à Perdican, lui dit adieu, comme si cette mort rendait leur amour impossible. C'était une interprétation qui date de 1957, interprétée par Emmanuel Riva. Vous avez peut-être reconnu sa voix en Camille, et Paul Gers qui jouait Perdican. Vous disiez en écoutant Sylvain Léda, hein, quelle langue, vous êtes encore surpris par la beauté de cette langue.
Oui, je connais, j'ai lu des centaines de fois la pièce et je suis toujours ému par la langue et par la plasticité de la langue. Parce que, ce qui est important aussi dans ce théâtre, là le mot cœur revient ouais. de reprise et j'en parlerai après, mais ce qui est important dans ce théâtre, c'est justement sa capacité à se renouveler dès qu'on l'entend par une autre voix. Voilà, hein. J'avais vu il y a quelques années la mise en scène avec Loïc Corbery dans le rôle de Perdican, et là on entend la voix d'Emmanuel Riva dans celle de Camille, et ça donne une autre ampleur au texte, on entend d'autres mots. Alors effectivement, le cœur revient à 2 reprises dans ce dénouement, laisse-moi le sentir sur ton cœur, qui peut être une image théâtrale, un mouvement de prendre Camille contre son cœur, contre sa poitrine. C'est presque une didascalie interne, c'est-à-dire une indication de jeu dans le texte. Et puis, notre cœur est pur. Ça, cette formule de Perdican, c'est centrale chez Musset.
Il s'adresse à Dieu lorsqu'il dit ça, en disant « Sauvez-nous, notre cœur est pur ».
Il s'adresse à Dieu, et c'est d'autant plus ironique que Dieu ne répond pas à sa prière. Hein. Et c'est toute la problématique de Musset qu'Esther Pinon a parfaitement étudiée dans sa thèse sur le ciel, le mal du ciel chez Musset. C'est-à-dire la question de la recherche d'une pureté du cœur qui est très, très difficilement... on ne peut pas atteindre, qui est inaccessible. Le dénouement dont ne badine pas avec l'amour fait écho au dénouement des caprices de Marianne. C'est tout aussi tragique. Les deux pièces commencent comme une comédie, de manière un peu folle. On ne badine pas avec l'amour. Ça commence par une description fantaisiste des fantoches de Maître
c'est
Blasius.
Très drôle, d'ailleurs.
C'est très drôle, oui. Maître Blasius, Maître Briden, ainsi que Dame Pluche, qui est la gouvernante de Camille, sont des personnages drôles. Donc tout le début dont ne badine pas avec l'amour est drôle. Les caprices de Marianne, ça commence aussi comme une sorte de défilé, un peu de carnaval. Et puis ça se termine sur un couperet. Elle est morte, adieu Perdican. Dans les caprices de Marianne, c'est Marianne qui demande à Octave et pourquoi dis-tu adieu l'amour ? C'est-à-dire pourquoi renonces-tu au cœur ? Pourquoi dis-tu adieu l'amour ? Et Octave répond à Marianne, je ne vous aime pas Marianne, c'était Célio qui vous aimait. Donc ces ruptures brutales, c'est comme si le cœur s'arrêtait. Donc là, effectivement, la mort de Rosette, qui d'ailleurs est interprétée ici tout à fait singulièrement, puisqu'elle avale sa douleur plutôt qu'elle...
On n'a pas entendu un cri, mais une respiration.
Une espèce d'intégration de la souffrance qui l'annihile, qui la détruit, et avec un jeu de scène, de hors-scène tout à fait extraordinaire, tout à fait subtil. Hein, ça laisse le temps quand même dramatiquement à Perdican de faire sa prière qui tombe dans le néant. Et ça laisse le temps à Camille d'aller constater la mort et de revenir pour repartir à jamais.
Cette pièce, On ne badine pas avec l'amour, tout est dans le titre et il faut le prendre au sens premier. On ne badine pas avec l'amour, ça veut dire qu'on ne joue pas avec l'amour, car la mort peut s'en suivre, c'est ce que montre la fin de cette pièce. Mais ça veut dire aussi, ça nous amène à une autre conception du cœur que celle que nous avons explorée jusqu'à présent, que du cœur, nous pouvons beaucoup parler, que peut-être en parler, jouer avec les mots quand on parle du cœur, c'est-à-dire de l'amour, est très dangereux et toute la pièce donne à entendre une multiplicité de registres de ton, de manière de parler de son amour qui est extrêmement riche et extrêmement dangereuse. Perdican ne dit pas autre chose et passe la pièce à essayer de masquer ses sentiments. Il s'en prend aux femmes dans le monastère, il s'en prend à Camille, il s'en prend à lui-même. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Il parle. Et finalement, la fin est tragique.
Oui, pourquoi la fin est tragique ? Parce que le cœur est sacré. Il n'y a plus grand-chose de sacré au XIXe siècle pour Musset. Hein, le matérialisme, toutes les choses trop concrètes, la foi a disparu. Hein, c'est ce que dit Fantasio dans la pièce Fantasio. L'amour n'existe plus, la foi a disparu, on ne croit plus en rien. Donc il reste encore le cœur, il reste encore l'amour qui est sacré, qui est un lieu vraiment sacré. C'est la raison pour laquelle en parler, verbaliser le cœur, lui donner la parole ou varier sur le thème du cœur, c'est une manière d'essayer de le comprendre aussi, une manière d'essayer d'en faire le tour. C'est pour ça que Perdican parle beaucoup d'amour, jusqu'à devenir parfois un peu logorique, hein, quand même, là, c'est ces grandes tirades, ou même les tirades dès 1830, dans la nuit vénitienne, les tirades du prince sont des tirades sur le cœur, sur le désenchantement. On parle beaucoup d'amour, hein, chez Musset. Le langage de l'amour est un des moteurs dramatiques de son théâtre. Donc, je pense que c'est aussi une manière d'essayer d'accéder à ce mystère, au mystère de l'amour, si j'ose dire, par la parole.
Oui, mais Perdican est aussi très fin et quelque part, il a tout compris pour jouer aussi bien. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le caractère sacré de l'amour. Perdican joue avec, il est beaucoup plus cynique que cela, que Musset sans doute. J'en veux pour preuve, par exemple, le moment où il parle à Camille qui lui dit « Mais vous savez, moi, dans mon monastère, j'ai vu des femmes qui s'adonnaient à Dieu, il ne faut pas, il y a trop de souffrance dans l'amour. » Et la réplique de Perdican est extraordinaire. Il dit ceci, il dit « Il y a 200 femmes dans ton monastère et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre et tu te sers contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompées, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leurs chaînes pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris? Ô mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Elles qui s'assoient près de toi, avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille, leur vieillesse flétrie. Elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir et font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe. Sais-tu qui elles sont ?
Il y a beaucoup de colère dans cette
de réalisme.
De réalisme et de colère, oui, bien sûr, puisque...
C'est lui qui fait la leçon là à Camille, pour le coup. Il a mieux compris qu'elle ce que valent ces femmes dans le monastère. Il est implacable.
Alors... Ce qu'il essaye de lui expliquer, je ne sais pas s'il a mieux compris qu'elle, mais ce qu'il essaie de lui expliquer, c'est les raisons de l'engagement religieux de ces femmes. Et les peut-être de mauvaises raisons. C'est la raison pour laquelle, justement, cet engagement religieux est fragile aux yeux de Perdican. Puisque l'amour, le cœur, est supérieur à l'engagement religieux dans l'esprit de Perdican. Et dans l'esprit de Camille aussi, finalement, puisqu'elle comprend qu'il a raison. Sa démonstration, c'est sur l'origine de l'engagement qui est finalement un engagement qui part d'une souffrance humaine et qui n'entre pas en concordance avec l'ascèse, finalement, qui n'est qu'une apparence. Hein. Donc là, il dénonce au fond l'hypocrisie des couvents. Et c'est ce qui est tout à fait génial dans ce texte. Dans cette tirade de Perdican.
Et Camille lui répondra ensuite, un peu plus tard dans la pièce, mais finalement on peut le voir comme un dialogue, elle lui dit « Mais connaissez-vous le cœur des femmes ?» Justement, le cœur des femmes, Perdican. C'est très intéressant parce qu'on a ici presque une interprétation genrée. Le cœur des femmes serait différent du cœur des hommes. « Êtes-vous sûr de leur inconstance, dit-elle, savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois de langage? Il nous faut souvent jouer un rôle, souvent mentir. Vous voyez que je suis franche, mais êtes-vous sûr que tout mente dans une femme lorsque sa langue ment ?» Là, c'est merveilleux parce qu'elle dissocie la langue du cœur de la langue parlée.
Oui, tout à fait. C'est cette dislocation de la langue parlée et de la langue du cœur, c'est une constante chez Musset. On le trouve aussi dans d'autres pièces. Hein. Ce qui est très intéressant dans « On ne badine pas avec l'amour », c'est que c'est une des rares pièces où l'éloquence lyrique, l'éloquence du cœur, n'est pas seulement réservée à l'homme. Parce que chez Musset, ce sont les hommes qui sont les plus lyriques, qui parlent volontiers du cœur de manière éloquente. Ici, Camille, ce qui est tout à fait passionnant dans sa démonstration, c'est qu'elle renvoie à Perdican son propre libertinage, qui n'est qu'une connaissance superficielle du cœur des femmes. Hein. Il l'a accusée de ne pas connaître les raisons fondamentales qui ont poussé les femmes à s'engager. Elle l'accuse de ne pas connaître la raison fondamentale d'un amour sincère, lui qui a été un libertin, probablement.
Si bien qu'on peut relire rétrospectivement le début de la pièce, lorsque Camille oppose son refus à Perdican, elle ne veut pas l'épouser comme étant peut-être une stratégie de sa part. Peut-être l'aime-t-elle depuis le début et elle joue avec son cœur, sachant que c'est en se refusant à lui qu'elle va vraiment le gagner.
Oui, l'une de ses premières répliques, c'est « Excusez-moi ». Elle s'excuse et après elle lui dit « Je n'aime pas les attouchements ». Donc, elle a bien compris que la stratégie de Perdican est aussi une stratégie sensuelle. Et pour accéder à la sensualité, il faut passer par la sincérité du cœur. sans quoi le chemin est biaisé, hein, pour Camille. Et ça, c'est une préoccupation de Musset. Pour arriver à la pureté du sentiment, à la profondeur du sentiment, il faut utiliser une rhétorique qui n'est pas nécessairement celle des sens.
Et comment interprétez-vous la fin de cette pièce, Revirement ? Est-ce que c'est une fin quasiment morale ? Comme une punition, ils ont trop joué avec l'amour et ils ont eu leur amour a dû sacrifier sur l'autel de l'amour une victime, cette pauvre Rosette, donc ils doivent renoncer l'un à l'autre ?
Alors, effectivement, c'est une interprétation, je dirais, religieuse de la pièce, que de considérer Rosette comme l'agneau sacrifié, au fond. Hein. Il y a une part d'invraisemblance assumée dans ce dénouement que je trouve extraordinaire. Parce que la mort de Rosette, elle est absolument invraisemblable, au fond. Hein. Une personne qui est trahie, elle va être en colère, elle va avoir du chagrin, elle va se manifester. Elle avale sa respiration, elle meurt. Donc on est dans une stratégie tout à fait invraisemblable d'un point de vue psychologique et dramatique, mais on illustre puissance 100, le proverbe. Le proverbe, on ne badine pas avec l'amour, doit être illustré au dénouement. Alors normalement, dans le genre du proverbe, on édicte le proverbe, on le dit. Hein. Par exemple, à la fin d'un caprice, le proverbe c'est « un jeune curé fait les meilleurs serments ».
Quand vous dites proverbe, il faut l'entendre ici, c'est un genre.
C'est un genre dramatique, voilà. Comme par exemple, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.
Il
en fait une pièce et ça se termine par il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.
Voilà, on n'entend pas.
On l'entend dans le cri de Rosette. Le proverbe, il est comme concaténé dans ce cri, dans cette fin tragique, rapide, brutale.
Elle est morte. Point. Adieu, Perdicant. Oui. Là, on a une espèce de rupture dans le déroulé auquel on s'attendrait dans une pièce classique. C'est ce que fait Alfred de Musset dans d'autres pièces, le Rondenshow par excellence, oui. Où il fait sauter tous les codes traditionnels pour aller droit au but, droit au cœur.
Voilà, exactement. On n'est pas du tout dans une conception traditionnelle de la comédie ou de la tragédie, puisque la pièce est hybride. Elle comporte plusieurs genres. Elle commence de manière drôle et elle finit de manière abominable, tragique. Donc effectivement Musset s'accorde la plus grande liberté possible pour atteindre ce qu'il lui semble le plus vrai d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire le fait qu'on ne joue pas avec le cœur, avec les sentiments.
On regrette, dans On ne badine pas avec l'amour, de ne pas entendre davantage Rosette, c'est justement cette victime, ce personnage secondaire qui pourtant est essentiel dans le dénouement de la pièce. Eh bien, peut-être que Musset l'a pris en compte et un an plus tard, quand il écrit la pièce qui s'appelle Le Chandelier, il donne la voix à, disons, l'équivalent masculin de Rosette. Il s'agit de comment s'appelle-t-il ? Fortunio, qui lui, alors vous allez nous raconter, est aussi manipulé finalement par un couple qui se sert de lui à ses propres fins. Mais cette fois-ci, il va pouvoir parler.
Alors oui, toute la différence entre Rosette et Fortunio, ce sont des personnages qu'on peut rapprocher effectivement, puisqu'ils ont la candeur en partage, la naïveté en partage. Rosette est une jeune paysanne, donc elle n'a pas accès au langage comme Perdicant, qui est docteur à quatre boules blanches, donc qui est un garçon cultivé, qui a fait de hautes études, ou comme Camille, qui a reçu une éducation religieuse, donc une éducation solide. Hein. Donc elle n'est pas cultivée. Fortunio, c'est un jeune clerc de notaire de 16, 17 ans, 18 ans peut-être, hein. Et l'histoire du chandelier, c'est une des meilleures pièces de Musset à mon avis parce que c'est l'une des plus complexes. C'est l'histoire d'une jeune femme, Jacqueline, qui a un amant, Clavaroche, un militaire. La première scène, elle cache son militaire dans le placard tandis que son vieux mari tambourine à la porte. Et elle échappe de justesse au fait d'être démasquée par son mari. Et Clavaroche, qui est habitué aux histoires d'adultère, lui dit, pour s'en sortir, il faut trouver un chandelier. C'est-à-dire un jeune homme sur lequel vont se déplacer les soupçons du mari qui se sent trompé. Et Fortunio se trouve là, dans l'étude, et Clavaroche et Jacqueline estiment que ce Fortunio, ça sera le bon chandelier. Sauf que Fortunio croit en l'amour de Jacqueline, croit en l'intérêt qu'elle lui porte, elle lui donne de petites commissions à faire, au départ de petites choses, et finalement, lui, il l'aime en secret depuis plusieurs mois, et le fait qu'elle s'intéresse à lui dévoile, ouvre complètement son cœur à l'amour qu'il a pour cette femme, qui est un peu plus âgée que lui, et malheureusement, il s'aperçoit que c'est une manipulation, que c'est un piège.
Et on écoute sa réaction.
Rendre un jeune homme amoureux de soi uniquement pour détourner sur lui les soupçons tombés sur un autre. Lui laisser croire qu'on l'aime, le lui dire au besoin. Troubler peut-être bien des nuits tranquilles. Remplir de doutes et d'espérance un cœur jeune et prêt à souffrir. Jeter une pierre dans un lac qui n'avait jamais eu encore une seule ride à sa surface. Exposer un homme aux soupçons, à tous les dangers de l'amour heureux, et cependant ne lui rien accorder. Rester immobile et inanimé dans une œuvre de vie et de mort. Tromper, mentir. Mentir du fond du cœur. Faire de son corps un appât. Jouer avec tout ce qu'il y a de sacré sous le ciel comme un voleur avec des dés pipés. Voilà ce qui fait sourire une femme. Voilà ce qu'elle fait d'un petit air distrait. Non. Tant d'horreur n'est pas possible. Non. Une femme ne saurait être une statue malfaisante, à la fois vivante et glacée. Non, quand je le verrai de mes yeux, quand je l'entendrai de sa bouche, je ne croirais pas à un pareil métier. Non, quand elle me souriait, elle ne m'aimait pas pour cela, mais elle souriait de voir que je l'aimais. Quand elle me tendait la main, elle ne me donnait pas son cœur, mais elle laissait le mien se donner. Quand elle me disait « je vous aime », elle voulait dire « aimez-moi ». Non, Jacqueline n'est pas méchante. Il n'y a là ni calcul, ni froideur. Elle ment, elle trompe, elle est femme. Elle est coquette, railleuse, joyeuse, audacieuse. Mais non infâme, non insensible. Ah, insensée. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu pries, tu pleures. Et elle se rit de toi.
Ce Fortunio, c'est Clément Hervieux-Léger qui l'interprète ici, avec ce texte encore sublime, hein, Sylvain Léda, qu'on entend, chaque mot nous parle directement au cœur. Et on voit encore comment les mots tentent d'adoucir une réalité qui est bien cruelle. Il n'est pas prêt à accepter que Jacqueline ne l'aime pas vraiment, comme une espèce d'expression d'un déni qui, chez Musset, il faut quand même le dire, a une origine très claire, hein, qui est une espèce de traumatisme de la tromperie dont il s'est senti victime, qu'il a aussi engendré d'ailleurs.
Oui, en 1828, Musset connaît un premier amour avec la marquise de la Carte, qui est la fille du sculpteur Bozio, et il est follement épris d'elle, et il s'aperçoit en fait qu'il n'est pas le seul à fréquenter cette marquise, et ça le blesse profondément, pensant que ce serait un amour idéal, un amour parfait, et il se rend compte du mensonge, de la duperie de cette marquise, et cette blessure du cœur, cette blessure originelle du cœur, se rouvre dès qu'il a une souffrance sentimentale, et il en a beaucoup dans sa vie, Musset, de souffrance sentimentale. Donc il y a une sorte de scène traumatique de la blessure qu'on retrouve dans la Confession d'un enfant du siècle, quand le narrateur se penche sous la table et voit le pied de sa maîtresse enlacé autour de celui de son ami, de son meilleur ami. Donc cette scène traumatique de la tromperie de la part de la femme, c'est une obsession, elle revient dans le chandelier. Sauf que dans le chandelier, pour terminer juste sur Fortunio, oui. Ce qui est extraordinaire, c'est le revirement. C'est-à-dire que cette douleur qu'exprime Fortunio, il va l'exprimer à Jacqueline, jusqu'à frôler la mort, puisqu'il s'évanouit. Ce qui est un signe de mort dans le théâtre romantique, souvent dans le mélodrame, par exemple. Il revient à lui, et Jacqueline a été bouleversée par sa sincérité de cœur, justement. Par le fait que lui ne mente pas. Et cette sincérité-là la touche au point qu'elle va tomber amoureuse de lui et se rendre compte que c'est lui qui est intéressant. Et la dernière scène de la pièce est très drôle, puisque le chandelier, c'est devenu Clavaroche. Et l'amant, c'est devenu Fortunio.
Mais là aussi, on retrouve une dimension morale quand même. Dans Ne badine pas avec l'amour, il y avait une impossibilité de jouir d'un amour mutuel parce qu'on s'était servi de quelqu'un d'autre. Et ici, finalement, Jacqueline tombe amoureuse du plus sincère. Et il y a toujours chez Musset quand même l'idée que le cœur a ses raisons, mais c'est quand même mieux quand elles sont en harmonie avec la morale, non ?
Alors Musset n'est pas moral, mais c'est un moraliste. C'est-à-dire qu'il a une parfaite conscience des mœurs et de leur complexité. C'est un grand lecteur de La Fontaine, un grand lecteur de Molière. Donc ses racines culturelles se plongent dans le XVIIe siècle. Et c'est un grand lecteur aussi de Jean-Jacques Rousseau, pour qui le cœur, la sincérité du cœur, le retour à cette origine de l'état de nature qui passe par le cœur, eh bien, il le trouve chez Rousseau, dont son père, le père de Musset, était le meilleur spécialiste de Rousseau en son temps. Donc Musset a baigné dans cette culture-là, qui est une culture à la fois de moraliste et qui accorde au cœur une place quand même importante dans la pensée, dans la démonstration de ce qu'est l'existence, dans ce qu'on pourra appeler aussi une phénoménologie du cœur, c'est-à-dire un mode d'accès à la connaissance par l'expérience du sentiment. Et chez Musset,
ce qui est très rousseauiste.
C'est très rousseauiste et c'est très mussétien aussi.
D'où l'importance sans doute chez Musset, et on l'a entendu dans les différents extraits qui ont été diffusés aujourd'hui, de l'enfance. Comme chez Rousseau, l'enfance c'est le moment du cœur pur en réalité.
L'enfance c'est le lieu de l'Éden perdu. Hein, dans On ne badine pas avec l'amour, ce que reproche Perdican à Camille, c'est de ne pas avoir de souvenirs d'enfance. Il lui dit quoi ? Pas un souvenir, Camille ? En regardant le paysage de leur enfance, il est bouleversé par le fait qu'elle n'ait pas de souvenir d'enfance. Et dans une pièce aussi géniale qu'À quoi rêvent les jeunes filles, eh bien c'est une pièce sur la disparition de l'enfance, la perte de l'enfance, quand on découvre la sexualité, l'érotisme et la dangerosité du cœur.
Et on ne sait jamais chez Musset s'il y a un vrai plaisir à transgresser cette enfance perdue dans l'érotisme justement et la passion douloureuse, ou s'il le regrette vraiment.
Les deux sans doute, hein. Je pense qu'il y a de vrais regrets, on le voit dans sa poésie, hein, dans Les Nuits notamment, on le voit aussi dans La Confession d'un enfant du siècle, ou dans ses nouvelles qui sont très tournées vers l'enfance, hein. Une nouvelle comme Margot par exemple, et puis il y a effectivement un plaisir transgressif, ou un plaisir, un peu immoral, de découvrir que cette pureté, on peut la souiller aussi.
Begin to tell the story of how great love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine, he came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart, he fills my heart with very special things, with angel songs. So much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there.
Et on finit avec le début, Where Do I Begin, Shirley Bassey. Un grand merci à vous, Sylvain Léda, d'être venu nous parler de Musset aujourd'hui.
Merci.
Vous donnez très envie de le lire ou de le relire. Alors je renvoie à l'ouvrage que vous lui avez consacré, hein, chez Gallimard, la collection Découverte. Cette collection illustrée, on trouve beaucoup de documents, de témoignages de ses contemporains. Les fantaisies d'un enfant du siècle, c'est ainsi que vous l'avez appelé. Et puis il va paraître en septembre un ouvrage sur le théâtre d'Alfred de Musset que vous avez écrit.
Oui, là, qui
aux éditions
Hideuse et Calande.
Et bien on a hâte de vous lire sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, les 10h48. Il est le temps de retrouver les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître aujourd'hui. Je vois l'objet, c'est plus qu'un livre.
Alors oui, c'est un petit livre qu'on a tout de suite envie de toucher, d'ouvrir. Pour cause, il est recouvert d'une sorte de papier calque recyclé. Il est comme protégé par un voile que l'on a envie d'ôter ou comme enveloppé par une peau translucide. Et ça tombe bien puisqu'il s'agit, je cite le sous-titre du livre, vous le caressez déjà Adèle.
Mais oui, on a envie de le toucher, c'est vrai.
Eh bien, il s'agit d'un livre composé de Dire de la peau. Plus précisément, il s'agit d'un dialogue sur le corps, la peau et le toucher avec le philosophe Jean-Luc Nancy, à qui l'on doit déjà un certain nombre de textes sur le sujet. Alors, comme il le dit lui-même, que dire de plus qui n'a pas déjà été dit sur le sujet ? Platon, Descartes, Spinoza, Kant, le christianisme, Nietzsche, Freud, chacun a déjà pu dire quelque chose sur le corps, et Jean-Luc Nancy de rappeler cette histoire, ce corpus du corps, tout comme il rappelle les déclinaisons du corps. Le corps sentant, aimant, blessé, malade, pénétré, greffé, chantant, tatoué, sensible et physique, et puis finalement vivant. Alors que dire ou qu'écrire encore sur le corps, sur ce revenant, comme dit Jean-Luc Nancy, certes longtemps méconnu ou maltraité? Eh bien rien. Justement, car comme le dit Jean-Luc Nancy, on n'écrit pas sur le corps, on ne le marque pas, on ne le tatoue pas. Le corps se marque lui-même, il signifie par lui-même, il fait sens. Ce sont par exemple les rides au coin des yeux, les traces laissées par le soleil, les cicatrices qui résistent. Et c'est là le paradoxe du corps, il touche, mais on ne le touche pas, on ne peut pas le toucher ou seulement du doigt. Mais la matière reste impénétrable, car peut-on dire ce qu'est le corps en regardant à l'intérieur, en le découpant, tel le médecin, peut donc traverser la peau par l'esprit, comme le tentent les philosophes, pourra-t-on dire qui est donc ce corps? Eh bien, ces pages sont donc comme la peau. Elles exposent le corps, elles l'exposent, P-E-A-U, comme l'écrit Jean-Luc Nancy, mais elles se caressent seulement, tout comme le corps se caresse seulement.